Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
T'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Soprano, Kenji Girac, Pascal Danel, à chacun son Everest. Alors, que certains d'entre vous ont la chance de dévaler les montagnes dans les stations de ski en France ou ailleurs en Europe. Nous, on a eu envie de vous raconter des histoires de montagnes, pas de petites montagnes, de hautes montagnes avec notre invité Jean-Michel Asselin, journaliste et alpiniste. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Mais oui.
C'est pas trop bas pour vous ici, ça va?
Non, tout va bien.
Non,
j'aime
bien
aussi
la vallée. Vous n'avez pas le vertige? Ah, c'est vrai. Vous avez gravi des sommets sur tous les continents du monde, et notamment l'Everest. C'est le Graal, ça, l'Everest, pour les alpinistes?
Oui, c'est le Graal, parce que c'est la montagne l'absolue, c'est la plus haute du monde, 8850 mètres. Donc, quand on est alpiniste, on rêve évidemment de fouler cette cime.
Et de nombreuses personnes sont arrivées en haut de l'Everest?
Aujourd'hui, je pense qu'on doit dépasser 6000 personnes.
Je m'en rends pas compte, c'est beaucoup ou pas?
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. En même temps, à la dimension de la planète, c'est rien du tout. Ouais, c'est ça.
Ça fait un petit club quand même assez fermé. Mmh. Et il faut quand même noter que sur ces 6000 personnes, il y en a 340 qui ne sont pas revenus.
Oui, il y a un vrai risque. On parlera de ce risque tout à l'heure, Jean-Michel Asselin. Vous-même, vous y êtes rendu, tiens, déjà sur l'Everest, combien de fois?
Alors, je suis allé 5 fois. Sur l'Everest, une fois sur le versant nord, et 4 fois sur ce qu'on appelle la voie normale, le versant sud. Mais je ne suis jamais arrivé au sommet. Je me suis arrêté 2 fois à 50 mètres de dénivelé du sommet.
À 50 mètres, parce que votre corps n'en pouvait plus, parce que des gens autour de vous vous ont dit, c'est pas possible, c'est trop dangereux, faut que tu redescendes.
Ce sont toujours des événements un peu bizarroïdes. Une fois, tout simplement, j'étais avec un Sherpa qui était très fort. Il avait fait 6 fois l'Everest. Il s'appelait Babou Tsiring. Et quand nous sommes arrivés près du ressaut Hillary, il a cassé une corniche. On a failli partir, une corniche de neige.
Ouais.
Tous les deux, on a failli partir dans le vide, 3000 mètres plus bas sur le versant est de l'Everest. Et par chance, j'ai réussi à le retenir. C'était vraiment un coup de chance. Et là, on s'est assis tous les deux dans la neige. Il m'a regardé, il m'a dit, it's time to go back, c'est l'heure de repartir à la maison. Donc je fais demi-tour et je suis reparti.
Alors ça, c'est la première fois manquée, et la deuxième.
Et la deuxième fois, alors c'est beaucoup plus stupide. Là, je n'avais pas de corde pour franchir ce qu'on appelle le ressaut Hillary. C'est un tout petit escalier de pierre qui doit faire une douzaine de mètres de hauteur, ce qui représente dans les Alpes strictement rien. Mais à 8800 mètres, c'est un peu compliqué. Pas à monter, mais à descendre. Or, je savais que si je montais ce ressaut sans corde, ce qui était tout à fait possible, en revanche, je n'arriverais sûrement pas à le descendre. Eh bien, j'ai pris donc l'option de dire que c'était fini.
D'où vient le nom de cette montagne, l'Everest?
Ah, c'est une drôle d'histoire. C'est un monsieur qui s'appelait George Everest. Et ce monsieur était tout simplement le grand ponte de ce qu'on appelle le Survey of India, qui était un organisme chargé de cartographier tout l'Himalaya.
Donc il décide de donner son nom?
Non, alors ce sont ses amis qui ont à un moment noté qu'un certain pic 15 était le plus haut sommet, visiblement, de la région. Et pour lui faire plaisir, ils ont dit, on va l'appeler du nom de notre boss, quoi. Alors ils ont dit, on va l'appeler George Everest. Ce qui ne l'a pas rendu très heureux, parce qu'il trouvait que Everest, c'était imprononçable pour la population locale, les Tibétains ou les Népalais de l'autre côté.
D'ailleurs, c'est quoi le nom local de l'Everest?
Alors c'est Chomolungma. Chomolungma, c'est du côté tibétain, ça veut dire la déesse la plus haute. Et les Népalais ont finalement aussi trouvé un nom, ils l'ont appelé Sagarmatha, qui veut dire aussi à peu près la même chose, la déesse mère.
Jean-Michel Asselin, vous racontez vos aventures dans un livre, On ne vit pas au sommet, chronique de montagne, publié aux éditions du Trésor. Et vous racontez que l'un de vos compagnons d'ascension a raté le sommet de l'Everest à cause de ses chaussettes.
Oui.
Alors ça, c'est quand même très intriguant.
Oui, c'est très.
Il les a mises à l'envers?
À peu près, non. Il grimpait avec un sherpa, comme ça se fait très souvent, et il avait donc une paire de chaussettes qui était mouillée, et il était persuadé que son sherpa possédait dans son sac à dos la paire de chaussettes de rechange. Alors, il faut savoir qu'une paire de chaussettes mouillées, comme ça ici, ça n'a aucune importance. À l'Everest, une paire de chaussettes mouillées, ça veut dire que vous avez probablement beaucoup de chance d'avoir le pied qui gèle. Donc ça lui a posé quelques problèmes. Mais raisonnablement, c'est pas pour ça qu'il a raté l'Everest. On rate pas l'Everest à cause d'une paire de chaussettes.
Mais moi, ce que je retiens de ce que vous nous racontez, c'est quand même la somme de détails.
Oui.
Ça, c'est important. De volonté aussi. Et alors, la question, c'est quand on échoue aussi près du sommet, qu'est-ce qui domine ? Est-ce que l'important, c'est le but ou c'est le chemin ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je vois très bien. Ouais. Alors, l'alpinisme, c'est très binaire. C'est sommet ou pas sommet.
Ouais.
3 mètres sous le sommet, ça n'est pas le sommet.
Ah, donc c'est le but alors ?
Donc c'est le but. Et vraiment, on est dans une frustration terrible, quoi. On n'adore pas pendant des années.
Ah, des années. Années.
Vous avez bonne mine pour quelqu'un qui ne dort pas depuis des années.
Alors justement, si on a la chance d'atteindre ce sommet de l'Everest, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah,
c'est un grand moment.
Une photo ?
On a préparé son discours comme au César. Qu'est-ce qu'on a préparé avant dans cette...
À mon avis, on essaye de préparer des choses, mais en fait, là-haut, on ne pense pas beaucoup. Parce qu'on pense qu'une chose, c'est qu'il va falloir redescendre. Mmh. Et ça va déjà nous occuper un certain temps.
On fait une petite danse de la joie, quand même.
On fait un petit hug avec les personnes avec qui on est autour de nous. Hein. On s'embrasse.
On laisse un objet.
Alors, la tradition, c'est souvent une photo. Photo d'une fiancée ou de... Je sais pas quoi.
Qu'on veut oublier ou pas?
Non.
Alors, pas celle-là, mais
je la laisse très très haut, très très loin.
Celle-là, c'est fini. Et puis, les Sherpas, eux, mettent des petits cadeaux à la déesse la plus haute. Donc, la première fois, quand Tenzing Norgay a fait le sommet de l'Everest avec sœur Hilary, il a posé du chocolat et des stylos.
Alors, vous prononcez souvent ce mot, Sherpa, il a l'air très précieux. Vous allez nous raconter dans un instant à quoi sert ce personnage auprès de l'alpiniste. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est elle qui décide de votre destin. On vous raconte la très haute montagne, celle qui apporte son lot de bonheur et de malheur. C'est notre invité Jean-Michel Asselin, qui est journaliste passionné d'alpinisme, qui nous fait découvrir cette vie si particulière, parce qu'on flirte avec les frontières de la mort à plus de 8000 mètres d'altitude. Sidonie a prononcé, vous l'avez prononcé plusieurs fois, et Sidonie voulait qu'on détaille un peu le rôle du Sherpa. C'est quoi un Sherpa ?
Alors un Sherpa, d'abord, c'est une ethnie. C'est pas simplement un métier. Mmh. C'est d'abord une ethnie, ce sont des gens qu'on... Sherpa, ça veut dire les hommes de l'Est. Donc c'est des gens qui sont arrivés au Népal au 14e siècle environ. Ils venaient probablement du Tibet et ils ont investi cette région très particulière au pied de l'Everest qui s'appelle le Khumbu. Et ce sont des bouddhistes. Et quand il y a eu les premières expéditions sur l'Everest, on a évidemment embauché ces gens-là qui étaient du pays, qui étaient déjà acclimatés à 4500 mètres d'altitude. Et curieusement, le mot porteur est devenu le mot Sherpa. Donc aujourd'hui, on associe ça à... Voilà.
Et qu'est-ce qu'ils portent pour vous, pour les alpinistes ?
Les vrais héros de l'Everest, c'est eux. Ils portent tout. C'est eux qui installent les camps, c'est eux qui posent les cordes fixes. Ce sont sans eux, il n'y a pratiquement aucun occidental qui arrivera au sommet de l'Everest.
Mais c'est-à-dire que vous ne portez rien, vous ? Les mains dans les poches ?
Non.
Sidonie, oui, c'est mon genre. Avec ses 23 kilos tout mouillés, là.
Non, mais moi, je ne suis pas capable de porter mon sac à main, si vous voulez.
Vous n'êtes pas, vous seriez quand même un peu obligé de porter votre sac à main, mais pas plus.
Ouais.
Non, c'est vraiment eux qui portent tout, c'est clair.
Et nous, jusqu'à combien de kilos sur le dos ?
Ah, les Sherpas peuvent... Alors, on limite quand même les choses, on fait attention. Mais ils peuvent porter jusqu'à 25 kilos à très haute altitude, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Par contre, en bas, il arrive qu'ils portent jusqu'à 100 kilos.
100 kilos,
bien sûr.
Mais c'est Sherpa, donc vous nous dites, moi je découvre ça grâce à vous, que ce n'est pas seulement un métier, que c'est aussi départ une ethnie,
ouais.
Donc les hommes de l'Est. Comment font-ils pour s'acclimater à cette très haute altitude ? Parce qu'ils y vivent depuis toujours ?
Parce qu'ils y vivent depuis
toujours. Et de génération en génération, ouais, c'est
exactement.
Aussi simple que ça.
Ouais, c'est aussi simple que ça. Mais alors ce qui est très curieux, c'est que si vous les descendez au niveau de la mer, par contre ils vont très vite se désacclimater. Et après, pour remonter vers chez eux, ça va de nouveau être une petite épreuve. Mmh. Donc comme quoi l'acclimatation, c'est quand même un phénomène qu'on maîtrise encore très peu.
Jean-Michel Asselin, vous racontez vos aventures dans un livre « On ne vit pas au sommet, chronique de montagne » publié aux très belles éditions du Trésor. Et vous racontez une aventure avec un Sherpa, justement, on est en 2003. Et il y a une expédition voisine qui vous confie un de leurs Sherpas pour le soigner. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Ah oui, c'est une histoire incroyable. En fait, en 92, on avait installé un très bel petit hôpital de campagne au camp de base. Et le médecin avait tout ce qu'il fallait. Et donc, tout le monde le savait. Donc, les gens venaient se faire faire soigner régulièrement parce que c'était l'hôpital le mieux équipé du camp de base. Et un jour, on nous amène un Sherpa et le type avait très mal au ventre, etc. Le médecin l'examine et tout. Puis il me regarde, il me dit « Bon, je pense que c'est une crise d'appendicite, il va falloir l'opérer. »
À quelle altitude vous étiez?
5300 mètres.
5300, d'accord.
Donc je regarde Régis, qui était mon copain médecin, je lui dis « Mais t'es pas chirurgien, t'as déjà opéré ?» Il me fait « Non, mais bon, là, on n'a pas le choix. On va téléphoner et puis on suivra par téléphone le maximum d'instructions pour réussir cette opération. »
Donc téléphone satellite
avec là, on voit votre gars,
à l'autre bout. Oui. Et là, je vais quand même regarder. Je lui ai dit « Écoute, j'espère que ton diagnostic est erroné et qu'il a autre chose. » Et par chance, effectivement, il avait tout autre chose. On a pu le maintenir en vie toute la nuit et le faire évacuer en hélicoptère le lendemain.
Mais alors, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre. Il se trouve que j'ai fait le Mont Blanc, qui est relative difficulté, mais qui est déjà haut. Et surtout, j'avais vraiment l'impression d'être un petit vieux qui n'arrivait pas à avancer dans les 100 ou 200 derniers mètres.
Oui, mais ça, c'est normal.
Comment on peut aller deux fois plus haut, quasiment, quoi?
Ben, en fait, c'est très simple. Hein. C'est toujours pareil. C'est un problème d'acclimatement. Quand vous faites le Mont Blanc, vous partez de Chamonix, etc. Mais vous n'êtes pas acclimaté pour aller à 5000 mètres. Là-bas, c'est pareil. Quand vous faites l'Everest, vous n'êtes pas acclimaté pour aller à 8000. Mais comme vous allez monter très progressivement jusqu'au camp de base, il faut pratiquement 9 jours de marche d'approche pour arriver à 5300 mètres. Ouais. Une fois que vous êtes à 5300 mètres, vous allez tout simplement vous poser, attendre. Vous allez faire des allers-retours dans un camp 1 à 6400, puis dans un camp 2. Vous allez revenir au camp de base, etc. Et vous allez faire comme ça pendant un mois.
Mais ça coûte combien une expédition comme ça?
Ça coûte très très cher. Aujourd'hui, l'Everest, si vous passez par une agence américaine, c'est au moins 70 000 euros.
Comment?
70 000 euros.
Est-ce que pour ce prix-là, on a des bons repas?
Pour ce prix-là, normalement, on a du dalbat à volonté, du riz et des lentilles à volonté.
Je sais pas ce que c'est du dalbat.
Ben voilà, c'est du riz et des lentilles.
Ah oui? Il y a un régime particulier, justement, quand on s'attaque à l'Everest?
Non, il n'y a pas de vrai régime particulier. On mange ce qu'on trouve, voilà quoi, c'est tout. On emporte des lyophilisés, enfin, toutes les barres énergétiques, tous ces petits trucs-là. La chance qu'il y a, c'est que quand on est très haut, on n'a pas faim.
Les Sherpas ne mangent pas la même chose que vous.
Non,
ils ont strong food for Sherpas.
Ouais. Alors ça, c'est
de la nourriture qui arrache pour Sherpas, c'est ça?
C'est de l'ail pilé avec des piments. Ils mettent ça dans un petit sac en plastique. Quand ils ouvrent le sac, vous ne pouvez plus respirer dans la tente. C'est une terreur.
Mais ça sert à quoi? À tenir le coup?
L'ail, c'est très très bon pour la circulation. Donc voilà, ça leur fait du bien. J'ai essayé.
Strong food for Sherpas.
Strong food.
Donc, pour vous, c'est plutôt lentilles et riz.
Ouais, pour moi, même rien. Pas grand chose.
Ah oui?
Tiens, savez-vous comment se réchauffer avec de l'eau froide quand il fait moins 15 degrés à 6, 7, allez 8000, on chipote
ça
pas.
Ça marche pour les chaussettes aussi, votre futur conseil?
Ça, je sais pas. D'accord. Comment faire pour passer le temps aussi en montagne puisque ça dure longtemps? Que faire quand vous n'avez ni eau ni nourriture à ces très hautes altitudes? On y répond juste après les informations sur RTL.
Vous écoutez RTL. Que la montagne est belle. La curiosité est un vilain défaut.
Viens, viens sur la montagne.
Curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous emmène au sommet dans la curiosité, mais pas n'importe quel sommet, celui de l'Everest. Le toit du monde, la montagne extrême, magnifique, celle qui ne pardonne rien, celle qu'il faut mériter. Nous sommes en compagnie de l'alpiniste et du journaliste Jean-Michel Asselin. C'est une même personne. Hein,
oui.
Vous vivez des aventures et vous savez les compter. C'est un vrai talent. Est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer quand vous grimpez l'Everest, parce que vous racontez quand même que ça prend plusieurs mois le temps de s'acclimater à cette perte d'oxygène?
Oui, on s'ennuie terriblement parce que on grimpe finalement assez peu. On est complètement dépendant des conditions météo et comme il fait assez souvent mauvais, eh bien, on est obligé d'attendre dans un camp, alors au camp de base, dans le meilleur des cas, ou dans un camp plus haut, ça dépend. Et là, on s'ennuie.
Alors, comment vous divertissez? À quoi ça ressemble, ces camps de base?
Alors, ces camps de base, au foot, on peut. non, on se divertit tout simplement en lisant, en écoutant de la musique.
Ouais.
Il y a des choses comme ça. Hein. Moi, je me rappelle qu'il y avait une expédition indienne à côté de mon camp. Et c'était super parce qu'ils avaient une télé, ils passaient des films Bollywood tout le temps. Donc, j'allais boire le thé avec eux. Et je regardais les films Bollywood où je comprenais rien. C'était génial.
Et parfois.
Est-ce qu'on peut draguer?
Oui, bien sûr.
Ah, oui. Ben voilà une bonne histoire.
Alors, il y a malheureusement, il y a peu de filles.
Et on peut conclure aussi.
On peut conclure, oui.
Il y a peu de filles. Allez-y, terminez votre histoire.
Oui, il y a peu de filles dans les camps de base. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est encore un sport, malheureusement, très, très masculin. Mais il y en a, et c'est formidable. Et on est content qu'elles soient là. Et on vit des belles choses.
Et vous, dans votre livre, On ne vit pas au sommet, chronique d'une montagne aux éditions du Trésor, vous racontez notamment que votre tante était à quelques mètres de celle d'une jolie Espagnole.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah bah c'était terrible parce que elle avait rencontré un jeune Australien qui était en pleine forme et donc malheureusement leur tante étant proche de la mienne, j'assistais aux ébats sonores de cette chère Mirari qui était très sonore justement et vraiment c'était très dur pour moi, j'étais obligé de mettre des boules qui est.
Mais ils sont partis les Australiens au bout d'un moment.
Alors l'Australien a fini par avoir un petit œdème, il est parti.
Ah. Du coup, j'ai pu, il y a une justice, c'est ça.
Il y a pas de justice. Du coup, j'ai pu retrouver mon espagnol.
Ces aventures, Jean-Michel Asselin, vous les racontez dans On ne vit pas au sommet, chronique de montagne, c'est aux éditions du Trésor. Et bien, des trésors, justement, vous en avez découvert pendant toutes ces expéditions, et notamment dans un monastère. Vous nous racontez où est ce monastère et quelles aventures incroyables vous y avez vécu.
Oui, alors c'est un monastère qui s'appelle Rongbuk, qui est sur le versant tibétain, donc versant chinois, selon qu'on est politiquement ou pas correct. Donc on est au Tibet, et il y a ce monastère qui est un monastère étonnant, à 5300 mètres d'altitude, et qui a été détruit en partie par deux choses, un tremblement de terre, et deux, par les gardes rouges lors de la révolution chinoise. Il y a donc une toute petite communauté de moines qui vit là-bas. Ils sont vraiment très fragiles, ils sont très pauvres, il n'y a pratiquement rien. Et ils m'ont montré un jour ce que c'était que ce qu'on appelle le tumo. Le tumo. Ouais. Alexandra David-Nel en parle dans un de ses livres. Et en fait, c'est une technique de méditation qui permet de se réchauffer. Et donc, voilà, pourquoi pas, j'y croyais quand même à moitié.
Si je réagis comme vous, avec ma rationalité, mon côté cartésien bien français, je me dis, bon, je suis bien gentil. Mais ça n'a pas marché. Et alors ?
Ouais, sauf que là, le vieil abbé a pris un jeune novice, un moine, et il m'a dit, je vais vous montrer. Et donc, il est sorti, on est sorti dehors. Il faisait quand même très frais, très froid même. Mmh. Et il a arrosé, le jeune a enlevé sa tchouba, sa robe. Il l'a arrosé avec un seau d'eau, puis il lui a mis une couverture. Et le gars a commencé ses mantras. Et en fait, au bout de quelques minutes, la couverture, elle fumait. Tellement il dégageait de la chaleur.
Les mantras, c'est comme des prières ?
Les mantras, c'est une prière, c'est une litanie. On répète Om Mani Padme Hum. Voilà.
Vous avez essayé d'appliquer ces mantras ?
Oui, j'ai essayé.
Pour réchauffer vos chaussettes ? Ah non, c'était celle de la collègue.
J'ai essayé, ça marche pas terrible, mais ça m'a appris quand même quelque chose. C'est quand vous avez froid, il y a un truc très simple, c'est simplement de baisser les épaules.
Pourquoi ?
Baisser les épaules, vous respirez tranquillement et tout va bien.
Qu'est-ce que l'Everest vous a encore appris ?
L'Everest, ça m'a appris que, justement, on ne vit pas au sommet. Ça m'a appris cette chose un peu étonnante. C'était que j'étais sûrement d'une arrogance incroyable de m'imaginer que si j'allais là-haut, j'allais devenir un héros, un personnage extraordinaire. J'ai vraiment eu...
Vous êtes le héros de la curiosité, en tout cas.
Une leçon d'humilité très forte, puisque l'Everest m'a rejeté tel un noyau de cerise en bas, vivant. Merci, monsieur l'Everest. Merci, madame. Et ça, c'est ce que j'ai appris.
Et vous avez vu revenir d'expédition des gens de toute nationalité, pour certains mal en point ?
Ah, mal en point, oui, c'est...
Mais ça veut dire quoi, mal en point ?
Mal en point, ça veut dire qu'un des accidents les plus durs que l'on puisse vivre à l'Everest, ce sont les gelures. Parce qu'on gèle en fait très très vite à cette altitude-là. Il faut savoir qu'on a un sang qui devient épais comme presque du boudin. C'est terrible parce qu'on triple le volume de globules rouges qu'on a.
On le ressent ça ?
Ah ben, on le ressent.
C'est quoi comme une espèce de lourdeur ?
Hyper épais. Ouais. Heureusement parce que ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène. C'est pour ça qu'on en a beaucoup plus. Le seul problème qu'il y a, c'est que comme le sang est épais, il circule moins bien dans les extrémités. Et le corps qui est très bien fait, il sacrifie toujours les extrémités par rapport aux organes centraux. Le corps va protéger votre cerveau, votre cœur, les reins, mais par contre les doigts, il n'en a rien à cirer. Donc s'il a trop froid, à un moment, vous allez geler des doigts de pied. Et ça, c'est la chose qui arrive le plus souvent. Et malheureusement, là, on peut perdre des doigts en l'espace de... Mais j'ai vu un jour un caméraman portugais qui filmait, il a enlevé ses gants pour filmer, mais pendant 2 minutes. Eh ben, il a perdu la moitié de ses doigts.
Vous nous disiez, juste avant la pause, que tout le corps morflait, en fait.
Oui. Oui, oui, l'altitude, c'est pas un endroit où on se refait une santé, c'est un endroit où on la perd, c'est certain. Parce que quand vous êtes à 8000, il faut se rappeler que l'oxygène, c'est quand même la nourriture du cerveau, c'est très important pour le corps. Or, à 8000, vous avez 20% d'oxygène en moins. Si je vous prends là et que je vous mets à 8000, en 10 minutes, vous êtes mort. Donc on ramasse évidemment beaucoup. C'est pour ça qu'on utilise de l'oxygène supplémentaire, de l'oxygène artificiel. On n'est pas obligé, certains le font sans. Mais bon.
Jean-Michel Asselin, vous avez hérité d'un surnom, Big Problem, gros oui. Problème. Vous allez nous raconter pourquoi dans un instant. Tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
L'Everest est au cœur de notre curiosité et pour partager son expérience, notre invité, journaliste, passionné d'alpinisme, évidemment, Jean-Michel Asselin. Alors d'où il vous vient ce surnom Big Problem ?
Oh, c'est très simple. En fait, j'étais dans un camp très haut, à 8000 mètres. On appelle ça le camp 4. C'est pas 8000, c'est 7960. Mais bon. Et j'étais avec un ami. J'étais monté juste pour faire de l'acclimatation. Mm-hmm. Donc j'étais avec un ami anglais qui avait la particularité d'être très enthousiaste et d'être également un peu dur d'oreille. Et il régnait sur la montagne ce jour-là un vent vraiment très, très, très violent. Tellement violent qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment passer la nuit là ? Puis bon, on avait des tentes, on avait tout ce qu'il fallait. J'ai chargé la tente, je l'ai lestée avec des vieilles bouteilles d'oxygène qui traînaient, ouais. Parce qu'il y avait quand même des Coréens qui, 15 jours avant, s'étaient envolés avec leur tente. Donc, le Coréen est très léger. Mais, mais il faut le savoir, non
pas plus léger que la tente.
Pas plus léger que la tente. Ouais.
Donc, d'arrimer la tente.
Imaginez la tente, on est deux, séparés par un mur de bouteilles d'oxygène, ouais. Et c'est des rafales de vent invraisemblables. Et puis, il y avait les Sherpas avaient monté 4 charges qui étaient censées contenir du gaz, de la nourriture, etc. Et quand j'ai ouvert la première charge, j'ai trouvé un parapente. Donc je me suis dit, mince, ça commence mal. Deuxième charge, un autre parapente. Les 4 charges étaient des parapentes.
C'était trompé.
Il y avait eu une erreur, volontaire ou pas, mais en tout cas, on n'avait rien.
Donc vous
ni
avez...
à boire, ni à manger.
Et là, vous dites big problème, c'est ça ?
Et là, je me dis big problème et j'appelle le camp de base. Et effectivement, genre 8h du soir au camp de base.
Ils envoient les secours, là, non ?
Oui, oui, ils n'envoient rien du tout.
Ah
ils
bon
m'ont dit, cher Jean-Mi, essaye de passer la nuit du mieux que tu peux. Et puis, demain matin, on verra, on essaiera de t'envoyer une équipe. Mais ça devrait aller, vous n'avez pas faim, tout va bien.
Et vous le prenez comment ? Là, vous avez peur, Jean-Michel ?
Là, je me suis dit quand même, c'est pas bien de pas manger, de pas boire. Là, c'est vraiment pas bien. Mmh. Et j'étais là, je disais ça à mon copain. Et lui, il était dans un enthousiasme forcené. Il me disait, it's wonderful, c'est magnifique, Jean-Mi, on est là. J'ai regardé, j'ai dit, bon, d'accord, ok, dors Marc, c'est bon.
Quand on est à ces altitudes, là, on parle de zone de la mort, c'est
oui.
Ça ? Alors c'est quoi la zone de la mort exactement ? C'est quelle altitude exactement ?
La zone de la mort, on pense que ça commence aux alentours des 8005. C'est là où on n'a plus les pieds sur terre, quoi. Ouais. On est quand même à l'altitude des avions de ligne. Hein. Donc vous marchez, vous êtes plus près des étoiles qu'on puisse aller à pied. C'est quand même un endroit fantastique.
Et là, on émouvant. Peut être on victime est... d'hallucinations, c'est ça ?
Oui.
Mais des hallucinations joyeuses ou terrifiantes ?
Il y a tout. J'ai des copains suisses qui avaient gravi l'Everest très rapidement, très grand alpiniste, Erhard Loretan, qui lui voyait des majorettes s'installer sur des nuages. Donc il était là, il trouvait ça sympa. Plutôt, voilà, l'autre, il voyait un transformateur électrique. Moi, j'ai échappé aux hallucinations. Mais très souvent, ce qu'on a, c'est des présences. On sent des présences. On parle avec quelqu'un alors qu'il n'y a personne.
Ça veut dire que... Est-ce que c'est à cause de ça, de ces hallucinations, que certaines personnes ne redescendent jamais de l'Everest ?
Absolument. Ça peut être à cause de ça. C'est en tout cas un effet pervers de l'altitude qui fait que votre cerveau étant sous-oxygéné, vous allez parfois prendre des décisions incohérentes, vous asseoir dans la neige parce que vous vous sentez fatigué et ne plus vous relever.
Je crois que c'était Mike Horn, Sidonie, qui était venu dans l'émission il y a quelques mois et qui nous avait raconté ça, une hallucination où il avait l'impression que le camp de base était à tel endroit, ouais. Et donc il a commencé à marcher vers le camp de base, presque il se voyait, il était sorti de son corps, il se voyait en train de marcher, sauf qu'il marchait vers le précipice en fait.
Ouais,
et heureusement, il est redevenu un seul et il s'est arrêté à quelques mètres de la chute. Vous avez eu beaucoup de témoignages comme ça d'amis alpinistes qui sont passés pas loin de la mort à cause de ça ?
Ah oui, j'ai eu des témoignages, bien sûr, j'ai eu des gens qui sont passés très près, et puis j'en ai même qui sont passés tellement près qu'ils sont parvenus. Oui, ça, malheureusement, mon carnet d'adresses ressemble un peu à un cimetière. Quand vous faites beaucoup d'expéditions comme ça, vous savez bien que vous allez en perdre un paquet.
Et est-ce qu'on peut comprendre pourquoi, comment ils sont morts, ces gens-là, ou est-ce que souvent on reste dans l'incertitude ?
On reste dans l'incertitude, beaucoup ont simplement ce qu'on appelle modestement disparu en montagne, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés, est-ce qu'ils ont fait une chute après, on ne les a pas retrouvés. Voilà, parfois on les retrouve, hein, des années après, ils ressortent du glacier, ou on les trouve dans la neige intacts, c'est très curieux.
Jean-Michel Asselin, vous publiez « On ne vit pas au sommet », chronique de montagne, c'est aux éditions du Trésor, et vous y racontez de nombreuses aventures, comme un réveillon que vous avez décidé de passer seul dans la montagne.
Oui.
Pourquoi ? Et comment ça s'est passé ?
Alors là, c'est toute petite montagne.
Ouais.
C'est une montagne qui s'appelle Lobiou, qui fait 2793 mètres. C'était la période de Noël. Je devais être très dépressif. Une histoire amoureuse qui s'était mal goupillée.
Avec une Espagnole.
Avec une Espagnole. Et donc, je n'ai pas trouvé mieux comme idée que de me dire, bon, bah, allez, tu vas passer tout seul ta nuit de réveillon. Ça sera génial dans la neige et tout. Donc, je suis parti.
Ça sent le désenchantement quand même,
ouais,
dans votre ton là. Mais on n'y est pas encore.
Ouais, on n'y est pas encore, mais presque. Et donc, je me suis quand même acheté de quoi réveillonner. Donc, j'avais une petite boîte de cassoulet, j'avais un quart de champagne, etc. Ma bouteille de
cassoulet. Cassoulet, champagne, c'est original comme
une réveillon. Oui, c'est original.
Comme
mais en montagne, on ne peut pas toujours choisir. Voilà. Et donc, je suis arrivé dans une petite cabane, je me suis installé, j'ai commencé à préparer tout mon petit frichti. Et là, ma bouteille de gaz n'était pas la bonne, elle ne se vissait pas sur le gaz. Donc, vous imaginez, le cassoulet froid, c'est totalement impossible et impensable.
Et du champagne chaud pour fêter ça aussi, ou quand même
le champagne était froid.
Ah bah non, il n'y avait
pas de souci. Mais alors du coup, bon, j'ai regardé ma boîte et je me suis dit, non, là tu peux pas, là, t'es maso, mais à ce point-là, non. Donc j'ai repris mes skis, je suis redescendu dans la vallée et je suis allé frapper la porte de copains et c'était la grosse stuff, c'était vachement bien.
C'est bien.
Alors vous allez croire que j'ai des hallucinations, mais pas du tout. La montagne, elle est masculine ou féminine?
C'est une question qu'on a essayé de poser justement dans les camps de base. C'était intéressant de savoir la représentation qu'on se faisait. Et en fait, à peu près 50% des gens trouvent qu'elle est masculine et les autres trouvent qu'elle est féminine. La montagne, pour moi, elle est plus masculine parce que elle est phallique, on le sait bien. Il y a tous les termes, hein, les montagnes vierges, etc. Pour d'autres, eh bien, elle est féminine. Alors, dans le cas de l'Everest, ça peut s'expliquer, c'est la déesse la plus haute. Alors, vous choisissez, soit vous grimpez sur votre papa ou sur votre maman. C'est très freudien, la montagne.
Ou soit on ne le grimpe pas et on la raconte. C'est déjà pas mal.
Et soit on reste au pied. Voilà. C'est pas mal.
Merci infiniment, Jean-Michel Asselin. Vous publiez Vivre au sommet, chronique de montagne, aux très belles éditions du Trésor. À bientôt, micro de la curiosité.
Merci.
Vous écoutez RTL.